Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tressaille d'allégresse, peuple de Dieu, pousse des cris de joie, Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juge et sauveur, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il détruira les armes de guerre, il annoncera la paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre et jusqu'aux extrémités de la terre. Portes, élevez vos linteaux, ouvrez-vous, portes éternelles, laissez entrer le roi de gloire. Amen. Prenez place. Alors, bienvenue à ce temps de culte des rameaux. Vous avez peut-être reconnu quelques passages typiques pour les rameaux. Et vous avez sans doute remarqué aussi qu'il y a quelques manques, parce que nos enfants de l'école biblique se réunissent aujourd'hui, ils sont délocalisés, ils sont à Tamiers. Alors nous avons quand même les petits du jardin biblique et les grands du catéchisme. Alors, vous savez, je vais d'abord au petit, vous répondez après. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes content de voir quelqu'un arriver? Alors moi, je vais vous raconter comment aujourd'hui il est grand, mais à l'époque il est tout petit. On habitait à l'étage, on avait l'escalier qui venait chez nous. Donc c'est quand on prenait cet escalier, c'était pour nous, il n'y avait pas le choix. Et quand mon gamin apprenait que sa grand-mère arrivait, il était haut. Il attendait, il attendait pas, puis il faisait ça. Alors, je vous ai tellement pris du côté. Juste à ce que ma mère arrive. Il était excité au point qu'il ne pouvait pas ne pas sauter. Et vous faites quoi quand vous êtes content? En tout cas, c'est quand il arrive, c'est bien. Je ne sais pas, vous n'êtes jamais content si. Alors bon. Je vais peut-être faire attention parce que bien évidemment, on ne remarque pas ce qu'on fait soi. On remarque ce que les autres font. Et qu'est-ce qu'ils font? Que font les autres quand il y a quelqu'un qui sont contents de voir? Ils attendent. Souvent, aujourd'hui, quand un artiste arrive sur scène ou un homme politique qui va prendre la parole, on peut qu'il soit de parti, hein, mais qu'est-ce qu'on fait?
Voilà, c'est la crucifixion, la mort de Jésus à la croix. Nous avons dit qu'on fait ça. Et
Je louerai l'Éternel donc, et à l'issue de ce chant, les petits iront parler justement des rameaux et de Pâques. Prenez place. Le Seigneur dit à Abraham, « Va pour toi hors de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Nous croyons que cet appel s'inscrit aujourd'hui encore au commencement de la foi. Dieu nous appelle à nous mettre en route pour avancer sur le chemin de la confiance, de la prière, de la rencontre du prochain. Dieu nous appelle à nous mettre en route pour aller à la découverte de notre vraie vie. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Nous restons assis pour chanter.
Nous prions.
Père, dans l'Écriture, tu nous montres un chemin et tu nous appelles à cheminer. Mais pour cela, il faut commencer par partir, quitter nos habitudes, nos conformismes, nos fausses certitudes, nos vaines justifications. Regarde ces liens, ces prisons, ces idoles qui nous empêchent d'avancer sur les chemins de la foi. Nous te les remettons. Dénoue les liens qui nous retiennent, abat les murs des prisons qui nous enferment, brise les idoles qui nous séduisent. Quand nous regardons au fond de nous, nous savons bien ce qui nous empêche d'avancer. Si c'est la peur, apaise-nous. Si c'est l'obscurité, éclaire-nous. Si c'est la paresse, inquiète-nous. Donne-nous aujourd'hui le courage et l'assurance dont nous avons tant besoin pour que notre foi ne soit ni une certitude immobile, ni un sentiment éphémère, mais une mise en route vivante et authentique. Dans l'épître de Jacques, nous lisons ceci. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste. En tenant compte de sa foi, il fut appelé ami de Dieu. À tous ceux qui posent la question, qui posent leur confiance dans l'Évangile, l'Écriture nous l'atteste ce matin. Dieu nous considère comme juste à cause de notre foi. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui marches dans la confiance, aujourd'hui, je te le dis, tu es ami de Dieu. Et je vous invite à vous lever pour témoigner de notre reconnaissance et de notre joie et de chanter « Jeunes et vieux » 51-02. Place. Avant de lire le récit des rameaux dans l'évangile de Matthieu, pardon, nous prions. Jésus a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. » Ouvrir un livre, ce livre, et dire « Voici les Écritures », c'est croire que la parole de Dieu s'adresse à nous. Par ces mots. Seigneur, nous ne savons pas tout. Nous attendons une lueur de sens, le témoignage discret et mystérieux de ton esprit. Amen.
Alors nous allons lire Matthieu 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait « Qui est celui-ci ? » La foule répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. »
Pierre. Il n'y a pas de Pierre.
Alors,
nous poursuivons au verset 12 à 17. Puis Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de bandits. » Des aveugles et des boiteux s'avancèrent vers lui dans le temple, et il les guérit. Voyant les choses étonnantes qu'il venait de faire, et ses enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» les grands prêtres et les scribes furent indignés, et ils lui dirent, « Tu entends ce qu'ils disent ?» Mais Jésus leur dit, « Oui, n'avez-vous jamais lu ce texte ? Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es préparé une louange. » Puis il les planta là et sortit de la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit.
Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur.
Prenez place. C'est aujourd'hui, je crois l'avoir déjà dit une fois ou l'autre, ou deux, le dimanche des rameaux. Donc à cette occasion, l'usage est de parler de l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Oui, mais j'en avais pas envie. Et cela d'autant moins que j'ai vu que l'épisode se poursuivait par le récit de l'entrée de Jésus dans le temple, après le temple. Après Jérusalem, le temple, progression logique, où se déroule un épisode très connu, celui de Jésus chassant les marchands du temple. Les marchands du temple, c'est même devenu une expression, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Je dois d'abord faire une petite remarque. Lorsque j'ai demandé à Antoine de faire le diaporama, ce dont je le remercie d'ailleurs, il a bien fait, il m'a mis, vous avez pu vous l'apercevoir, des ânes et des ânons un peu partout, ce qui est très bien, très chouette, j'aime beaucoup. Mais je lui ai dit pour la prédication, je préférais autre chose puisque j'allais prêcher sur les marchands chassés du temple. Alors il m'a mis cette image, enfin il nous a mis cette image, et je n'ai pas eu le cœur de lui demander de changer encore. Non pas qu'elle ne soit pas bonne, hein, ou que je ne l'aime pas. Simplement, ce n'est pas le bon évangile. Ce n'est pas l'évangile de Matthieu. Est-ce que quelqu'un sait quel évangile illustre cette image et à quoi ça se voit ? Ah ! Bien vu ! Seul Jean mentionne un fouet fait de cordes. Hein ? Précis, hein ? Alors voilà, donc est-ce que ça valait la peine de changer l'image juste pour ça ? Je ne suis pas sûr. Consciemment ou non, d'ailleurs, le dessinateur illustre cet épisode tel que le rapporte l'évangile de Jean. Donc, à cause des cordes que... Donc, Jean est le seul qui évoque ce point. Ce qui a fait dire à l'exégète catholique Alfred Loisy que Jean était le plus factuel, le plus réaliste, le plus exact des témoignages parce que ce genre de détails, disait Loisy, ne s'invente pas. Alors, Loisy tirait de cette conclusion que l'évangile de Jean était supérieur aux autres. Alors, j'aime beaucoup Loisy, hein, c'est un homme courageux, intelligent, intéressant. Mais sur ce coup-là, il faut bien dire que l'argument est plutôt faible et qu'il a fait preuve là un peu de naïveté. Bon. Mais si j'attire votre attention sur ce détail, c'est pour insister sur le fait que chaque évangile a ses petites particularités. Matthieu est le seul à rapporter les guérisons à cette occasion, guérison des boiteux et des aveugles, et a cité le psaume 8 que nous chanterons tout à l'heure. Il vaudra donc la peine de nous arrêter plus longuement sur cette particularité de notre évangile de ce jour. Mais, quoi qu'il en soit, nous voyons Jésus dans le seul épisode de colère physique raconté par les évangiles. Il y a d'autres passages où il est en colère, où il dit des choses dures, mais là, il ne se contente pas de violence verbale, il passe aux actes, il renverse tout, il chasse acheteurs et vendeurs. Plus qu'une colère, cela semble être de la rage, une rage que je pensais naïvement que seule l'informatique pouvait générer. 3 des 4 évangiles rapportent cet épisode, dont celui de Jean. Alors, c'est souvent que 3 évangiles rapportent un événement, mais généralement, c'est les 3 évangiles Matthieu, Marc et Luc. Et là, Luc n'en dit rien, mais c'est Jean qui relève cet épisode. Un épisode, donc, qu'on ne pouvait pas passer sous silence, qui était trop bien attesté, même s'il était un peu gênant. Se mettre ainsi en colère, manifester son opposition de cette manière, ce n'est pas tellement une image digne d'un maître spirituel, que ce soit chez les Grecs ou chez les Juifs. D'où l'idée de sainte colère, une colère qui serait juste. Et donc, chaque évangéliste va essayer de justifier, si vous me permettez cette expression, de cette colère, de lui trouver une justesse, une justice, et ainsi rendre acceptable cette violence physique, aussi surprenante que dérangeante. Bien sûr, il y a la piste habituelle et bien tentante des fameux marchands du temple, les commerçants des choses religieuses, les profiteurs de la piété commune, de la superstition des simples. Oui, bien sûr, mais n'y a-t-il que cela ? Marc et Matthieu sont les seuls à ajouter comme victimes de la colère de Jésus aux marchands les acheteurs, ceux qui vendaient et ceux qui achetaient. On pourrait arguer qu'il s'agit des mêmes. Les commerçants sont à la fois acheteurs et des vendeurs, puisqu'il faut, pour vendre, il faut d'abord acheter. Mais le principe du commerce, c'est d'acheter quelque chose quelque part pour le vendre ailleurs. Donc ce sont aussi bien les gens qui viennent au temple remplir leurs obligations religieuses que ceux qui le leur permettent qui sont ici visés. Donc ce ne sont pas tant les marchands ou les changeurs qui sont l'objet de la colère, mais bien tout le commerce, le trafic qui se passe dans la cour du temple. Alors ne me faites pas dire ce que je ne veux pas. Ce n'est pas une attaque en règle contre le commerce en général. Nous sommes bien heureux que des gens fassent profession de nous permettre d'acquérir des biens que nous serions en peine de nous procurer par nous-mêmes. Et nous voyons bien ce qui se passe lorsque les commerces de proximité disparaissent. Non, il s'agit bien du commerce en ces lieux. Pourtant, n'est-il pas nécessaire? Les gens sont appelés à faire des offrandes de pigeons, et il n'est pas forcément courant d'avoir des pigeons sur soi, comme ça, sous la main, même à l'époque. Alors, il est donc tout naturel que pour que chacun puisse accomplir ses obligations religieuses, il y ait des gens qui lui permettent de le faire et lui facilitent la tâche. Mais, en citant le prophète Ésaïe, le Jésus de notre récit oppose prière et vol et brigandage. Donc, les échanges tarifés, pour prendre un mot à la mode, du temple sortent du domaine du commerce pour s'apparenter à une violence. Les brigands ne sont pas des simples voleurs, ce sont ceux qui prennent par la force ce qui ne leur appartient pas. Finalement, on peut en venir à se poser la question de savoir si les marchands du temple ne seraient pas que les complices et non les coupables principaux, les accusés principaux. Ce qui signifierait par conséquent que les acheteurs du temple ne seraient pas les victimes, mais les véritables coupables. Ce ne serait pas le commerce, les échanges vénaux dans la cour du temple qui serait le crime, mais ce qui se passerait après. Tenter d'arracher à Dieu, par une tentative de corruption, d'achat, ce qui ne relève que de la grâce, c'est-à-dire d'une réponse gratuite à une demande, une prière gratuite. Ce qui m'autorise ce renversement, c'est la citation justement du psaume 8, particularité de Matthieu. Il y est fait allusion aux enfants à la mamelle, aux plus petits, aux enfants qu'on allaite, pour reprendre la traduction de Clément Marot du psaume chanté. Les nourrissons demandent à manger et normalement, on leur donne. Il n'y a chez eux nulle trace de chantage, de marchandage. Ils ont besoin, ils demandent, on leur accorde. Aussi loin que l'on remonte, l'être humain a toujours eu besoin de marchander avec les puissances supérieures. De nos jours, ça peut prendre toutes sortes de formes, y compris chez les athées. Mais il existe profondément ancré en nous une espèce de croyance en ce que les orientaux ont appelé le karma, la qualité morale de nos actions présentes influence la qualité de notre futur, ou de notre passé pour le présent. Ce qui peut être vrai sur un plan sanitaire ou légal, mais c'est discutable sur le plan moral ou religieux. Il m'arrive de temps en temps que des parents venus préparer un baptême répondent à la question que je leur pose « Pourquoi voulez-vous faire baptiser votre enfant ?» par une phrase du type « Bah, on ne sait jamais, au cas où. » Au cas où quoi ? Mystère, je n'ai jamais réussi à obtenir une réponse satisfaisante. Au cas où Dieu existerait, qu'il serait fâché qu'on n'ait pas respecté ses commandements, des fois que ça protégerait des accidents, allez savoir, parce que si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal non plus. Mystère, je ne sais pas. Alors, à la suite de Jésus et d'autres passages de la Bible, j'essaye de les sortir de cette compréhension mécanique des choses. Si des malheurs vous frappent un jour, ce ne sera pas parce que vous aurez mal accompli par le passé votre devoir religieux ou moral. Les actions de Jésus au temple, dénonciation de l'achat du salut, du guérison des aveugles et des boiteux, suscitent l'animosité des prêtres et des scribes. Deux catégories différentes d'adversaires, qui habituellement ne s'entendent pas bien, qui sont dans des perspectives différentes. Les uns faisant confiance pour leur salut au rituel, et les autres à un comportement moral conforme aux Écritures ou aux traditions. Et lorsque Jésus renverse les étals des marchands et qu'il guérit ceux qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien payé, il vient bousculer en nous nos visions morales et religieuses. Il vient détruire nos certitudes, nos assurances, nos revendications, nos droits, pour nous inviter à nous abandonner à la seule confiance. Pour cela, nous sommes invités à redevenir des enfants à la mamelle, des plus petits, des enfants qu'on allaite. Et je vous invite donc à chanter ce psaume 8, les deux premières strophes. « Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. » Nous pouvons nous lever. Nous restons debout pour confesser notre foi. Vous avez le texte qui est affiché. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu nous a confié. Nous croyons en Dieu. Il a créé et continue à créer. En Jésus, vrai homme, il est venu apporter réconciliation et vie nouvelle. Par son esprit, il œuvre en nous et en tout être humain. Nous sommes appelés à être l'Église pour le célébrer, pour proclamer Jésus-Christ crucifié et ressuscité, notre justice et notre espérance, pour annoncer le royaume, vivre avec respect dans la création, aimer et servir notre prochain, rechercher la paix et résister au mal. Nous avons confiance en Dieu, dans la vie. Ah oui, il manque un bout. Nous avons confiance en Dieu dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous croyons en Dieu. Amen. Je crois et j'espère. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre nous dit que celui qui offre de ses biens le fasse avec libéralité et que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. C'est maintenant le temps du don, le moment de l'offrande. Seigneur Dieu, c'est en ton nom que nous avons fait cette offrande. Accepte, c'est à ton service et à ta gloire que nous la consacrons. Amen. Monsieur le Président, si tu veux bien faire des annonces.
C'est que des annonces où il n'y a rien à payer. Hein, donc venez aux activités, c'est juste pour se rapprocher du Seigneur. Alors merci à Frédéric et Pierre qui nous ont accueillis ce matin, et à Vincent pour cette prédication, et puis à Antoine et Agnès pour la préparation de la projection et la projection des diapos. Merci à notre orchestre. Voilà. Et puis merci pour toutes ces belles fleurs, on m'a dit particulièrement Aline et Christine.
On t'avait dit de ne pas le dire, c'est ça?
Non.
T'as pas compris, oui, d'accord.
Aujourd'hui, pour suivre la journée, à 16h, il y a la dernière conférence de Carême sur France Culture. Et à 18h, à l'église de Verrier, il y a le concert Accords et Dissonance. C'est le concert qui a lieu ici le vendredi dans le temps Happy Back. Voilà, donc si vous voulez l'entendre ou le réentendre, il y a une piqûre de rappel. Sinon, avant de dire pour cette semaine, un appel... c'est le groupe des visiteurs qui nous le propose. C'est une prière, c'est le thème, c'est prière et lecture biblique, comment proposer sans imposer. Voilà, c'est une rencontre formation pour visiteurs et toute personne intéressée. Et c'est animé par Frédéric Dosseres,
qui est... Pas Frédéric.
Fabrice Dosseres, qui est l'aumônier protestant des hôpitaux à Annecy. Voilà, et la date, pour la noter dans vos agendas, le mardi 3 juin de 9h30 à 11h30 au Temple.
On le redira.
Sinon, cette semaine, outre les annonces habituelles, la prière le mardi matin, la prière le mercredi à 18h et la chorale... le mardi à 19h15. Nous vous proposons jeudi une étude biblique à 20h Le vendredi à 20h30, la veillée du vendredi saint autour du sabbat mater. Et le dimanche, donc ça sera dimanche de Pâques, à 7h, rendez-vous sur la plage d'Albigny à 7h pour l'aube pascale. Et à 10h, le culte de Pâques ici. Voilà.
On peut aussi avoir une pensée pour tous ceux qui vont entrer en période d'examen ou de concours. Et évidemment, je pense forcément à mon fils particulièrement. Voilà. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, nous nous sommes rassemblés devant toi aujourd'hui. Guide chacun, chacune de nous dans le droit chemin vers un bon avenir. Donne-nous le sens de nos responsabilités et de la fidélité. Accorde-nous toujours le pardon et la vie. Donne-nous des moments de prière pour nous rapprocher de toi et pour nous rappeler que le Christ est mort pour nous. Aide-nous à aimer la vie et à y mettre une lumière d'espoir. Apprends-nous le partage, la sincérité et la bonté. Donne-nous un esprit ouvert. Donne-nous la force nécessaire pour résoudre nos problèmes et surmonter nos échecs. Unis les uns aux autres dans ton amour, nous intercédons maintenant les uns pour les autres. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, pour les victimes de la guerre et de l'injustice des hommes, pour ceux qui ont faim ou froid, pour ceux qui pleurent et qui ne trouvent pas la consolation, pour ceux dont la conscience est chargée et qui ne trouvent pas la libération, pour ceux qui te cherchent, peut-être sans savoir ton nom et qui ne t'ont pas encore trouvé. Pour tous les êtres qui nous sont chers et que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. À tous donne la paix de ceux dont le cœur enfin peut se reposer en toi. Et accorde-nous d'être auprès d'eux des témoins de ton amour. Ainsi, membres d'une même famille, enfants d'un même Père, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction et pour le cantique final, Parler au cœur du monde. Employez votre temps à rêver. Employez votre énergie à prophétiser. Employez votre espérance à recevoir des visions d'amour, de paix et de justice. Employez votre vie à affirmer simplement la joie, le courage, la foi et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Sauveur. L'Esprit vous accompagne, il vous rendra paisible, inventif et fidèle dans les pensées, dans vos pensées et dans vos actes. Amen. Parlez au cœur du monde. Thank you. bon dimanche à tous.